minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Mercredi 18 mai. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est assez frais ce matin. Ça va peut-être même prendre un petit foulard, une petite laine, plus qu'un manteau. Mais pour les premières heures de l'avant-midi, parce que la journée s'annonce quand même belle, un peu fraîche, 18 le maximum, mais du beau soleil aujourd'hui, toute la journée. Profitez-en, parce que demain, ce sera le retour de la pluie. Alexandre Morinville-Ouellet, bonjour.
Bon matin, je me suis pas laissé prendre ce matin.
T'as mis un manteau.
Hier, je suis venu en short et en t-shirt. Ben quelle mauvaise idée.
T'es comme décalé un peu.
Moi, les changements de température, ça me prend toujours par surprise.
S'il y avait une petite application qui pouvait nous dire la météo le matin, ça serait utile. Mais bon, hein, j'imagine qu'avec le temps,
c'est l'expérience.
C'est quelque chose qui vient. Tu prendras des trucs à tes parents.
C'est ça.
Ouvrir la porte avant de sortir.
Ma mère me texte des fois le matin.
La main dehors.
De mettre un manteau.
Bon.
Mais là, il est un peu trop tôt pour elle.
Bon, ben, il va peut-être falloir qu'elle se réveille plus tôt, ta mère.
Je vais lui demander.
Parce qu'hier, t'as eu froid. Bon. parlons des nouvelles. Hier, on a appris le départ de la PDG du CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal, Lynn McVeigh, qui a annoncé qu'elle allait quitter son poste, qu'elle ne renouvellera pas son mandat en juillet prochain. La coroner avait été très critique à son endroit, notamment après cet appel qui avait été fait au 911 le 11 avril. Pourtant, le CIUSSS savait à partir du 29 mars que la situation au CHSLD Heron était critique. Hier, le gouvernement de François Legault a aussi dit « il faut de l'imputabilité ». Ça commence, oui, au niveau du premier ministre, des sous-ministres, mais aussi des gestionnaires de ces établissements comme les CIUSSS et les CI3S. Est-ce que d'autres têtes vont tomber? Est-ce que d'autres mesures seront mises en place? Hier, François Legault a laissé entendre que pour ce qui était de conventionner tous les CHSLD privés, il dit on va y aller au cas par cas. Donc, on comprend qu'il y en a en ce moment qui sont pas conventionnés, mais qui font quand même un bon travail. Pourtant, dans les recommandations de la coroner, c'est de conventionner tous les CHSLD. François Legault a aussi voulu corriger le tir. On le voit notamment ce matin en une de la Gazette en train de manger un gâteau hier étant tourné à Laval. Il dit là, il y a beaucoup de désinformation sur le projet de loi 85. La réforme de la loi 101. Il dit que 96 ne changera absolument rien sur l'obligation qu'on a comme gouvernement de donner des services en anglais, même aux nouveaux arrivants qui parlent juste anglais. Donc, rien de changé de ce côté-là. Il a voulu calmer un peu la situation, mais a rappelé quand même que le français était la langue commune, notamment pour expliquer son absence au débat en anglais. Il a aussi été questionné sur le prix du gaz. Il a dit que la proposition du Parti québécois là, de geler le prix à 1,60 $ le litre, c'était pas une bonne idée parce que ce serait l'équivalent de subventionner les pétrolières. Par contre, il ferme pas la porte à signer un nouveau chèque, fort probablement un peu moins généreux que celui de 500 $ bientôt. On s'approche de la campagne électorale, à quel point on a de l'argent, à quel point ce chèque-là sera mieux ciblé que le dernier, parce qu'on le sait, plus on envoie de l'argent dans l'économie, ben plus on stimule cette inflation-là. Alors, c'est comme mettre un peu des bûches sur le feu alors qu'on tente de calmer le feu sans l'éteindre complètement. Sinon, le débat sur le prix de l'essence a rebondi à Ottawa. Le NPD a demandé au gouvernement de cesser les subventions aux compagnies pétrolières. Est-ce que c'est la bonne solution? On va en parler avec Alexandre Boulris un peu plus tard à l'émission. Par contre, mettre fin aux subventions pétrolières, c'est une des recommandations, encore une fois, du secrétaire général de l'ONU. On a appris dans les dernières minutes là qu'il y a un nouveau rapport de l'Agence météorologique mondiale, État du climat mondial en 2021. Qui fait vraiment état encore d'un climat qui est complètement déréglé. Les quatre marqueurs clés des changements climatiques ont battu des nouveaux records. Concentration de gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, la température et l'acidification des océans. Des nouveaux records l'année dernière. Le secrétaire général des Nations Unies dit en ce moment, le système énergétique mondial est brisé. Il nous rapproche de plus en plus de la catastrophe climatique. Il dit en ce moment, les solutions, il faut mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, tripler les investissements dans les énergies renouvelables, supprimer tout ce qui est paperasserie et formalité administrative, s'assurer aussi qu'il y a un meilleur approvisionnement pour les technologies de l'énergie renouvelable et faire que ces technologies comme le stockage sur la batterie soient des biens publics mondiaux et libres, donc on puisse tous les utiliser. Sinon, à une journal de Montréal, les délais aux petites créances ici qui explosent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de poursuivre quelqu'un aux petites créances. Déjà que c'est compliqué quand on judiciarise un dossier. On a essayé de créer un système un peu plus simple avec les petites créances. Mais là, on réalise que c'est long. Dans certains endroits, là, ça peut prendre jusqu'à 1000 jours avant d'avoir une audience en petite créance. Et le temps d'attente a triplé depuis l'arrivée de la CAQ. Bon, il y a la pandémie là-dedans, bien sûr, mais il y a aussi manque de juges, difficile de retenir de l'expertise. Au gouvernement, on rappelle aussi que l'idéal, c'est de miser sur la médiation plutôt que d'aller devant les tribunaux. Sinon, Alex, tu veux me parler de ce qui se passe aux États-Unis, notamment de la fusillade à Buffalo.
Oui, parce qu'on continue de d'éplucher tout ce qui est documents, messages laissés en arrière par le tueur, l'auteur de la tuerie de Buffalo qui a fait 10 morts dans un supermarché dans une région où il habite beaucoup d'Afro-Américains à Buffalo. Parlait déjà en décembre de vouloir abattre le plus d'Afro-Américains possible. Et c'est ces messages vraiment qui sont troublants parce qu'il détaille dans son manifeste de 180 pages, mais aussi dans ce qu'il a laissé en arrière, qui est un espèce de journal intime, si on veut, de plusieurs centaines de messages. Il explique, entre autres, comment il se préparait à tout ça. C'est rendu le 8 mars dernier, entre autres, là, à cette destination-là. Buffalo, c'est à plus de 300 kilomètres de chez lui, là, quand même. Donc, c'est pas un petit déplacement. C'est rendu le 8 mars pour faire du repérage à midi, 14h, 16h, est entré dans le supermarché et s'est même fait pas confronté, mais disons questionné par l'agent de sécurité sur place qui se demandait pourquoi tous les 2 heures, ce client-là revenait dans le supermarché. Et c'est fou parce que dans ces messages-là, par la suite, qu'il laissait, le tueur laissait entendre qu'il devrait sûrement affronter ce garde de sécurité-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé lors de la tuerie.
Ah ouais, hein?
Ils se sont tirés dessus, il y a un échange de coups de feu. Mais comme le tueur portait un équipement paramilitaire, entre autres du Kevlar, une veste pare-balles, ben les tirs qu'il a essuyés ne l'ont pas blessé et lui a abattu là, de sang-froid cet agent de sécurité qui était à l'intérieur. Donc c'est un peu une espèce de prémonition à l'époque de ce qui allait se dérouler. C'est à glacer le sang. Il y a tellement de signes avant-coureurs qui auraient pu être, disons, pris par les autorités, par l'entourage, la famille, et ce qui fait dire à tout le monde un peu autour comment on aurait pu éviter ça et comment on pourrait l'éviter dans le futur. Joe Biden hier qui comparait là ce genre de comportement là de suprémaciste blanc à un poison pour l'Amérique. Mais ces appels, entre autres, pour le meilleur contrôle des armes à feu, risquent de rester lettre morte, malheureusement, aux États-Unis. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a une fusillade, ça se poursuit. Il n'y a pas beaucoup de changements qui sont apportés.
Bon, puis là, hier, on avait un test dans les primaires républicaines à savoir si l'âme de Donald Trump planait toujours sur ce parti. Des chaudes luttes dont on n'a pas toujours les résultats.
Oui, il y a toutes sortes de primaires qui sont faites, entre autres pour les candidats au Sénat, mais également à la Chambre des représentants et pour des courses à la pour devenir gouverneur des États. Hier, il y a 22 des 25 candidats qui sont endorsés là, par Donald Trump, là, qui sont endorsés, c'est un anglicisme ma foi, appuyés par Donald Trump, c'est bien vrai, qui ont été là élus donc à la primaire. Faut dire, là, je rappelle, une primaire, c'est vraiment pour élire le futur candidat aux élections elles-mêmes. Et il y en a quand même de ces courses qui sont hautes en couleur. Entre autres, la Pennsylvanie, parce que du côté démocrate comme républicain, c'était hier que le vote se passait et il y a des candidats assez spéciaux, merci. Côté démocrate, c'est John Fetterman, qui est un colosse de 2,5 m, qui, entre autres, a le crâne complètement chauve, il y a des tatouages sur les bras, il est toujours en petit short avec, sur lui, là, un coton ouaté. Il change jamais d'uniforme. C'est un candidat complètement atypique, mais qui a été élu hier avec 59% des voix, qui est pro-légalisation du cannabis, pro-syndicat, donc c'est un candidat assez intéressant à suivre. Et contre lui, par contre, du côté républicain, on n'a pas réussi à déterminer un gagnant. C'est extrêmement chaud, la lutte. Il y a 2000 voix de différence en ce moment qui sépare le Dr Oz, hein, Mehmet Oz, ancien chirurgien vedette, ouais, qui avait une émission médicale très connue, entre lui en ce moment et son principal adversaire, David McCormick. C'est très, très, très serré. L'autre candidate, la troisième, Kelly Barnett, n'a pas réussi à passer, mais elle, c'est toute une candidate qui a divisé le vote, entre autres. Elle est le fruit d'une victime de viol à 11 ans, mais pourtant, elle est en train de militer très fortement pour qu'il n'y ait pas d'exception d'avortement
en Côte d'Ivoire. Trumpiste pour le Trumpisme.
C'est extrême parmi les extrêmes et elle est venue diviser le vote et ça paraît. Donc elle est troisième, elle ne pourra pas gagner. Mm. Mais même hier, lorsqu'il y a eu les discours des deux candidats principaux, on ne savait pas qui allait gagner. Ça va se poursuivre ce matin.
Bon, sinon, en Ukraine, on va suivre aujourd'hui la demande officielle de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l'OTAN. Les enquêteurs de la Cour pénale internationale qui ont commencé leur enquête et qui sont en train de recenser à peu près 8000 cas de crimes de guerre de la Russie. C'est la plus grande équipe d'enquête jamais déployée. On va aussi suivre ce qui se passe à Mariupol où on a l'impression que peut-être les derniers jours de l'armée ukrainienne dans cette ville-là. Montréal, de son côté, promet une meilleure fluidité sur son réseau, malgré le rapport de la vérificatrice générale dont on parlait hier sur le manque de coordination. L'administration de Valérie Plante assure que les automobilistes cet été vont voir la différence. La vérificatrice générale, elle, doute que ça fonctionne. Elle dit, déjà, on est au mois de mai. Normalement, la planification aurait dû être faite. Sinon, les chiffres sur le nombre de morts sur les routes, 347 personnes sont mortes en 2021. Surtout le bilan des cyclistes qui est assez dramatique. 16 cyclistes ont perdu la vie. C'est une hausse de 57%. Sinon, il y a aussi Statistique Canada qui a publié des chiffres sur l'état d'esprit des Canadiens. Bonne nouvelle, ce sont les Québécois qui sont toujours les plus optimistes au pays, même si c'est en baisse un peu partout. On était 79% optimistes en 2016, on est rendu à 70% en ce moment. La province la moins optimiste, la Colombie-Britannique. Pourquoi? Va savoir. Madame Goldwater, d'ailleurs, qui poursuit la ville de Longueuil.
Oui, on savait que ça s'en venait. Le cabinet de maître Anne-France Goldwater qui a annoncé officiellement qu'ils allaient poursuivre et la ville de Longueuil et le gouvernement du Québec au nom de l'organisme de sauvetage Animal Rescue. Ils veulent évidemment empêcher l'abattage des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand de Longueuil. Ils veulent abattre l'administration entre 50 et 70 cerfs cette année. Ils vont tenir une conférence de presse ce matin, d'ailleurs, pour expliquer leur démarche. Ils souhaitent toujours que les cerfs soient entre autres relocalisés, les mâles stérilisés et déparasités. Donc, la saga des cerfs de Longueuil qui se poursuit.
Bon, puis de quoi ça a eu l'air les matchs dans la Ligue hier?
Oui, il y a moins de matchs. Hein. On se rapproche. Le Lightning de Tampa Bay a gagné la bataille de la Floride. La première manche 4-1 contre les Panthers. L'Avalanche du Colorado 3-2 contre les Blues de Saint-Louis en prolongation. Et ce, même s'ils avaient plus du double des tirs des Blues de Saint-Louis hier, ça s'est conclu en prolongation. Donc, la grosse machine de l'Avalanche qui fait une première victime, un premier match.
Bon, sinon, aujourd'hui, on surveille les apiculteurs du Québec et l'UPA qui vont faire le point sur les abeilles. Puis on va avoir les chiffres sur l'inflation. Ne retenez pas votre souffle, ça va faire mal si ça ressemble à ce qu'on a vu aux États-Unis. Alex, bonne journée.
Salut.